Elle se lève, épisode 96 du 16 décembre 2024. Au sommaire, démystifier la réalité des personnes intersexes. La Chambre de commerce DELGBTQIA+, 22 milliards d'activités économiques. Oui, 22 milliards. Les Français au lit, du sexe moins fréquent, plus diversifié, mais malheureusement plus violent. Le rôle de Judy Garland dans l'émeute de Stonewall. Et le cuir dans nos communautés, toute une histoire.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Lors d'un vote historique, le Conseil des droits de l'homme ou des droits de la personne a adopté, le 4 avril dernier, une résolution appelant les États membres à redoubler d'efforts pour lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques préjudiciables à l'égard des personnes intersexes. C'est la première fois là, de ce type qu'on a ce genre de résolution aux Nations Unies. Pour discuter de tout ça, je reçois Yannick Bastien-Charlebois, professeur intersexe de sociologie et de défense des droits de la défenseur des droits de la personne intersexe. Elle enseigne à l'Université du Québec à Montréal. On a utilisé le pronom « elle ». Est-ce que c'est adéquat?
Elle, yel.
Les deux fonctionnent pour vous.
Oui, tout à fait.
Alors, allons-y. Donc, cette résolution déposée ou adoptée en avril 2024, ça représente quoi, cette avancée-là, pour les personnes ou le mouvement de reconnaissance des personnes intersexes ici au Canada?
Bien, c'est un pas symbolique important parce que ça vient cautionner, valider la légitimité des revendications intersexes, la légitimité de la protection de notre autodétermination, de notre intégrité corporelle. Éventuellement, c'est le genre de prise de position qui peut influencer des législateurs en vue d'adopter des lois qui nous protègent.
Alors, pour ceux qui... Bon, on vient d'expliquer ce que ça veut dire, cette résolution-là, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une personne intersexe. Qu'est-ce que c'est?
Effectivement, question importante, parce que ce n'est pas toujours clair dans l'esprit de bien des gens, quoiqu'il commence à y avoir un peu plus là, d'idées de ce que c'est. Alors, intersexe fait référence aux personnes dont les caractéristiques sexuelles innées. Donc, et là, ça varie, hein? Les caractéristiques sexuelles, bon, organes sexuels externes, organes sexuels internes, et au moment de la puberté, donc il y a l'ensemble d'organes secondaires, la poitrine, enfin, le développement de la poitrine, la répartition des graisses, ossature et tout, n'entre pas dans les normes médicales ou sociales. Donc, pour ce que, disons, la médecine a déterminé comme étant un sexe mâle ou femelle. Alors, on n'entre pas dans ces normes-là de par notre naissance ou par le développement pubertaire. Alors, il ne s'agit pas du résultat de modifications corporelles qu'on aurait prises nous-mêmes. Donc, ce n'est pas la même situation que pour les personnes trans. Mm-hmm. C'est vraiment que la différence, elle est là par elle-même.
Moi, j'ai déjà lu que ça arrive que des enfants, j'en ai pas connu, mais j'ai lu, puis il y en a, qu'il y a des bébés viennent au monde, et c'est pas clair. Là, on va parler du sexe, non pas du genre, du sexe, donc mm-hmm. le sexe biologique. C'est pas clair, c'est quoi.
Oui.
Et souvent, les décisions sont prises, bon, on va en faire une fille, puis ça va s'arrêter là.
Oui. Alors, c'est ça, c'est qu'à la naissance, ou même dans le développement fœtal, parce oui. qu'aujourd'hui, avec les échographies, on est en mesure là, d'avoir une idée du développement fœtal, on peut remarquer que le corps correspond pas à ces, disons, définitions classiques, aux repères classiquement les femelles. Bon, traditionnellement, les médecins, dans ces situations-là, se demandaient est-ce qu'on est devant une fille ou un garçon, parce qu'il y a comme souvent cette adéquation-là entre identité de genre et certaines normes de corps. Prenaient une décision là, en fonction là, de différents facteurs pour l'assignation. Puis une fois que la décision était prise, une fois qu'ils se disaient « bon, OK, on va en faire une fille, par exemple », s'entraînait ou s'était accompagné d'une série de chirurgies ou plus tard d'hormonothérapie pour faire entrer la personne dans les normes. Mmh. Alors, c'est ça.
On choisissait pour la personne.
Exactement.
C'est ça.
Des fois, il y a des. La différence, on ne va pas la remarquer toujours à la naissance. Des fois, elle peut se manifester à la puberté, donc dans les changements pubertaires, là, tels qu'ils viennent par eux-mêmes. Là, c'est différent que dans la situation là, des personnes trans.
Alors, selon vous, là, c'est quoi les obstacles que les personnes intersexes vivent présentement au Québec?
Alors, il n'y a pas de garantie ou de protection de l'intégrité corporelle et de l'autodétermination. Des enfants sont toujours à risque de subir des modifications corporelles, donc chirurgie, hormonothérapie, sans décider qu'est-ce qu'elles préfèrent pour elles-mêmes.
C'est vraiment... Je fais une petite interjection ici. C'est quand même étonnant parce qu'il y a des groupes qui militent pour interdire le droit des enfants de choisir, hein, et on ne fait jamais de chirurgie pour ça, mais de choisir de s'identifier homme ou femme. Mais là, on peut décider pour eux quel sexe ils vont avoir.
Oui, et ces mêmes groupes, généralement, voient aucune objection au fait qu'on subisse des interventions.
Donc, il y a cet obstacle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes très peu visibles, les personnes intersexes.
Oui. Et c'est dû tout le processus d'invisibilisation médicale. Pendant longtemps, la médecine enjoignait les parents de rien dire à l'enfant sur son corps de naissance, à quoi le corps ressemblait, et de rien dire aussi à propos là, des chirurgies que l'enfant subissait. Et donc, dans cette politique de secret-là, ça devenait difficile pour les personnes de se reconnaître comme intersexes. Elles n'avaient pas accès aux mots, d'une part. Et d'autre part, c'est ça, il y a une espèce de silence, de malaise. Tu peux avoir des cicatrices sur ton corps à des endroits étranges, mais tu ne reçois pas de réponse claire là-dessus. On t'envoie souvent faire des examens médicaux où tu es mis à nu, tu es photographié, tu es touché, tu es palpé, mais sans qu'on t'explique exactement qu'est-ce qui se passe.
Comme un animal de laboratoire.
Ou c'est un objet de curiosité, ça. Ouais. Donc, les personnes vivaient souvent dans cet isolement-là et c'était très difficile pour elles de rejoindre d'autres gens, tu sais, elles étaient, mises à part.
Moi, je vais vous amener, si ça ne vous dérange pas, sur votre histoire personnelle, parce que vous êtes une personne intersexe, ça a été difficile de faire ce coming out-là?
Oui, tout à fait, parce que, d'une part, je n'avais pas tout le vocabulaire, hein, la conceptualisation. Qu'est-ce qu'on dit de nous, comment on en parle, et aussi comment on en parle sans alimenter le voyeurisme? Ou sans, cautionner le tabou. Donc, c'est une très fine ligne. Et en quoi c'était plus difficile pour moi de faire un coming out comme intersexe que comme personne lesbienne, c'est que comme personne intersexe, notre différence est liée à nos organes sexuels. Donc, c'est un peu se mettre le projecteur entre les deux jambes. Ah. C'est-à-dire que même si on noue de nous-mêmes, on ne va pas commencer à décrire comment on est, on sait que dans l'esprit de certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de nous, c'est un peu comme un mystère. Puis des fois, il y a une espèce de curiosité. La personne commence à se poser des questions sur à quoi tu ressembles, c'était quoi, tu sais, comment tu étais configuré, etc. Donc, c'est assez gênant, surtout quand on traîne un historique de honte.
Oui. J'aimerais rapidement qu'on termine là-dessus. Cette résolution-là, qu'est-ce que ça va changer? Quels sont vos espoirs avec des choses qui vont changer au Québec grâce à la résolution de l'ONU?
À terme, hein, parce qu'on n'est pas encore rendu là, à terme, ça va nous aider à passer une législation qui va interdire les interventions non consenties, qui va garantir l'autodétermination des personnes.
Il y a de l'ouverture au gouvernement du Québec là-dessus? Vous ne savez pas encore.
Pas vraiment. Ouais. C'est parce que c'est qu'ils disent oui d'un côté, mais d'un autre côté, ils adhèrent au discours médical. Donc, je pense qu'il y a un manque d'informations sur ce qui en est.
Bien, on va espérer que cet entretien-là va engendrer des conversations et de l'information, de la vraie information envers les gens. Alors, je voudrais vous remercier, Yannick Tremblay, c'est bien ça?
Bastien Charlebois.
Bastien Charlebois. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis mêlé. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir été avec nous. Puis on va certainement reparler de ce sujet.
Merci beaucoup, Denis Martin.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Saviez-vous que les 28 000 membres de la Chambre de commerce de LGBTQI+ du Canada génèrent plus de 22 milliards de dollars en activité économique? Ils emploient plus de 435 000 Canadiens. Son incidence sur l'économie est importante, mais des obstacles demeurent quant à l'accès à certains partenariats et ressources afin de rendre l'économie canadienne encore plus inclusive. Pour en parler, nous recevons via visioconférence Sean Selesky, vice-président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce de LGBTQI du Canada. Bienvenue à l'émission, Sean.
Merci. Bonsoir, Denis Martin.
Oui, bien, bonsoir. Sean, nouveaux invités, on demande toujours quel accord et quel pronom on utilise avec toi.
Il et lui.
Parfait. Bien, d'abord, parlons des principaux objectifs actuels de la Chambre de commerce LGBT, en fait, on peut dire, de commerce du Canada LGBTQIA+. Là, bon, c'est beaucoup de lettres, mais on va se retrouver. Alors, c'est quoi vos principaux objectifs pour soutenir les entreprises de nos communautés?
Pour commencer, vous dire un peu plus sur l'organisation. Oui. La Chambre est vraiment un OBNL qui a été établi en 2003, donc déjà plus de 20 ans que la Chambre est là pour aider vraiment à donner à ses membres les outils nécessaires pour prendre en main le règne de leur destinée économique si on veut favoriser la croissance économique des entreprises qui sont détenues par des personnes LGBTQI+. Les objectifs de la Chambre, mais écoute, globalement, c'est vraiment cette croissance économique-là qu'on veut aller chercher et aider, appuyer les entrepreneurs de la communauté à prendre avantage des opportunités économiques qui existent au Canada et dans le monde pour eux, pour vraiment donner des opportunités d'apprentissage et de soutien aux entrepreneurs et puis aussi de faire, si on veut, de la défense ou promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent l'inclusion ici au Canada, mais aussi à l'international.
Alors, je l'ai mentionné en présentation d'entrevue, on parle de 22 milliards de dollars en activités économiques générées là, par les membres de la Chambre de commerce. Comment vous mesurez ça, c'est l'impact économique de vos membres?
Écoute, on a fait une étude en 2021 avec Deloitte. C'est là où on a pu générer des chiffres par rapport à la démographie, si on veut, des entreprises de LGBTQI+ au Canada. On parle de plus de 100 000 entreprises de la communauté qui, comme vous avez dit, génèrent vraiment plus de 22 milliards de dollars et emploient presque 500 000 personnes au pays.
C'est beaucoup. Alors, c'est quoi les défis auxquels font face les entreprises de LGBTQIA+, en termes d'accès au financement ou aux ressources?
Mm-hmm. Il y a quelques défis. Je vais ressortir quelques statistiques, quelques chiffres de l'étude de 2021. Mais dans cette étude, nous avons observé que le quart des propriétaires d'entreprises de la communauté ont été victimes de discrimination en raison de leur identité. Encore 25 % ont perdu des opportunités après s'être identifié comme personne. Une sur quatre, absolument.
Ouais. Ouais.
Et 62 % des gens, des propriétaires, des détenteurs d'entreprises de la communauté ont choisi de ne pas s'identifier lors de présentation, lors de pitch. Lors d'engagement avec des fournisseurs, justement pour éviter à être discriminé.
Wow. Alors, comment la Chambre aide-t-elle ses membres à surmonter ces obstacles-là là, pour accéder justement aux opportunités de marché?
Oui, effectivement, mais on a bon nombre de programmes, peut-être que je pourrais le résumer avec quatre points clés. Numéro un, on a un programme de diversité des fournisseurs. Donc, c'est un programme où on certifie les entreprises qui sont détenues majoritairement par des personnes de LGBTQI+. Voyons, j'ai combiné les deux acronymes. De LGBTQI+.
Ouais.
Donc, présentement, on a jusqu'à 250 fournisseurs certifiés au Canada, dont mon entreprise à moi, donc Protection Incendie CD. Et vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre ces fournisseurs-là, de les donner les outils, les formations nécessaires pour croître, mais aussi pour les présenter et faire, si on veut, du matchmaking avec des entreprises au Canada qui sont alliées et qui ont des programmes eux-mêmes pour accroître la diversification de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est le premier programme, si on veut, de diversité des fournisseurs. Et on regarde ici aussi les contrats avec le gouvernement ou avec les grandes firmes. Deuxièmement, on a un programme qui s'appelle Fier en affaires. C'est notre programme de mentorat au Canada qui a évolué cette année. Avant cette année, on ciblait vraiment les jeunes entrepreneurs, mais depuis cette année, on regarde tous les entrepreneurs de la communauté. Ça représente par année plus de 60 personnes mentorées dans tout le Canada et environ 10 % de ces entrepreneurs-là qui sont mentorés viennent ici du Québec. Bon. Et dernièrement, oui. Un programme mondial, donc où on fait vraiment des missions commerciales mondiales dans divers endroits du monde, plus récemment au Mexique, mais aussi cette année en Europe et aux États-Unis. Donc, ça permet à une centaine de délégués canadiens à aller vraiment nouer des relations à l'étranger, rencontrer d'autres compagnies qui cherchent des fournisseurs issus de la diversité pour justement signer des nouveaux contrats avec eux.
On a beaucoup parlé à cette émission du fait qu'il y a des entreprises qui laissent tomber leur programme DEI, là, diversité, équité, inclusion. Je pense que je terminerai l'entrevue là-dessus. Qu'est-ce que vous faites présentement pour essayer d'accompagner ces entreprises, grandes entreprises, à l'importance de soutenir les personnes de nos communautés et les entreprises de nos communautés?
Beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres avec nos différents membres, donc nos sociétés partenaires, qui, eux, représentent ces entreprises, pour leur parler des bienfaits, pour leur sensibiliser justement à l'impact qu'ils ont, à l'impact de justement d'avoir des réseaux d'approvisionnement qui sont bien diversifiés et je dirais de continuer à plaidoyer pour des politiques qui sont inclusives tant avec le gouvernement canadien qu'avec ces chefs d'entreprise là.
Ben, c'était vraiment intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et à notre balado aujourd'hui. Sean Chulinski, qui est vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de ELGBTQI+ du Canada.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
L'artiste Tom of Finland était en effet des icônes de beauté et de sexualité. Je parle de ces hommes hyper masculinisés, adeptes du cuir. L'œuvre de Tom of Finland est reconnue mondialement et fait l'objet d'expositions dans de grands musées du monde, dont tout récemment ça a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. De l'extérieur de la communauté cuir, on décrit souvent le cuir comme étant un fétiche, mais pour plusieurs, c'est plutôt un mode de vie, voire une passion, surtout chez les hommes gays. Mais c'est aussi présent dans les autres communautés, donc de LGBTQIA+. Pour en parler, je reçois un vrai de vrai passionné qui tient une page Facebook, une chaîne YouTube dédiée au cuir. Alain Lacasse, bienvenue à l'émission.
Bonsoir, M. Chabot.
Chabot, excusez-moi. Oui, alors, Alain, juste qu'on le demande toujours aux gens, on utilise le pronom et les accords masculins avec toi?
Oui,
il, c'est okay. Bon.
Mélange-moi pas trop.
Alors, depuis quand es-tu un adepte du cuir?
Moi, j'ai commencé à triper dans le cuir. J'avais à peu près 17-18 ans et puis j'ai jamais lâché depuis ce temps-là.
Ah, ouais.
J'ai eu ma première moto, j'avais 19 ans. Et puis, comme que je dansais dans un club de danseurs et puis que c'était très payant, alors j'ai pu me...
Un club de danseurs?
Je travaillais dans un club de danseurs quand j'avais 20 ans, oui.
OK.
Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec le cuir.
Mais c'est quoi qui t'a fait découvrir le cuir? Pourquoi ça t'intéresse?
J'adore ça. C'est une seconde peau pour moi. Et puis, je trouve que c'est très masculin. Puis, je trouve que c'est très à la mode. Et puis, c'est toujours de mode, d'ailleurs. Et puis, je trouve que ça fait... Je sais pas, je trippe sur ça.
On va élargir ça. Oui. D'où vient le goût du cuir dans les communautés queer comme la nôtre? Là?
Ben, OK. Il faut savoir que le cuir était porté par les hommes de la caverne il y a 1 million d'années, d'accord? Quand ils tuaient un mammouth, esprit, ils se faisaient du linge avec la peau du mammouth. Alors, ça a une très, très vieille histoire, le chat. Mais on va arriver à nos années. C'est que les Grecs et les Romains utilisaient le cuir pour habiller leurs soldats et officiers vers 3500 ans avant Jésus-Christ, aller environ jusqu'en 330 à l'époque de Constantin II. Et puis, ça commençait vraiment là, le port du cuir, ça commençait avec les Grecs puis les Romains. Vers le 17e siècle, ça devient un mode de vie. Les manteaux, les tabliers, les pantalons, les chemises de cuir sont vendus couramment sur les marchés de l'époque du 17e siècle. Après ça, on arrive vers le 1800, les Premières Nations américaines, c'est-à-dire les Premières Nations qui habitaient les États-Unis, eux, ils ont inventé ce qu'on appelle les chaps. Les chaps, c'est une forme de demi-pantalon où ce que les fesses, le fessier, si on veut, et ce que le devant est à l'air. Ces chaps-là avaient été inventés par les Indiens pour se protéger contre les morsures de serpents, qui étaient très, très beaucoup à l'époque.
Mais ils n'avaient pas peur de se faire mordre aux fesses?
Je ne sais pas. Ça avait l'air que c'était surtout pour protéger les jambes. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que les cowboys en ont fait un de leurs emblèmes de masculinité puis d'habillement. C'est à cause de ça.
Okay.
Les cowboys, dans les années 1880, aller jusqu'à 1900, ils portaient ça parce que ça les protégeait contre les morsures de serpents à sonnette et puis tout ça. Et puis, ça les protégeait aussi quand ils tombaient à terre de leur cheval. Après ça, on arrive vers 1900. On a commencé à créer des super belles garde-robes de cuir pour hommes, surtout à Londres et à New York. Mm. Il était très, très beau de voir des gens tout habillés en cuir, mais avec veston, cravate et tout, vers les années 1900. Après ça, en 1928, les frères Scott invente le blouson de cuir Perfecto pour les motards. C'est exactement ça, le Perfecto. C'est exactement ça. C'est pas un Perfecto, c'est une imitation. Là,
Oui, c'est le manteau qu'on voit régulièrement. Même il y a des gants en moto absolument partout.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le style que les frères Scott ont sorti en 1928. Et à partir de ce moment-là, les clubs de motards ont commencé à porter des chaps parce qu'ils s'apercevaient que ça les protégeait contre la poussière. Puis
les petits cailloux et tous ces trucs-là.
Ce qui nous emmène à notre premier club gay de cuir qu'on appelle. Bon, ouais. Ça a commencé des années 68-69 après les meurtres de Stonewall à New York en 1969 contre la répression gay. Mm-hmm. Ça a commencé là vraiment les clubs de cuir. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'achetaient des garages, et puis parce que ces gars-là avaient des motos, et puis ils transformaient ça en club de cuir, c'est tout. C'est comme ça a commencé avec les frères Scott. Mm-hmm. En 1928, ils ont ouvert le premier bar gay en moto, en cuir.
Wow.
Et puis à l'époque, le Harley-Davidson commençait à construire ses motos, ses quelques premières motos et tout ça. Après ça, on arrive... En 1970, les premiers bars officiels de clubs de cuir ouvrent à Montréal. Le premier, il s'appelait le Buds. Okay? Mm. Ça, c'est sur la rue Stanley, dans les années 75 à peu près, 1975, si je ne me trompe pas, d'accord? À côté du Hollywood, du Limelight, et ainsi que du Studio 1. C'était le quartier, c'était l'endroit gay de Montréal dans les années 75 puis 80. C'est là qu'on se tenait. Mmh. Et puis, en 1979, malheureusement, puis à San Francisco aussi, ça s'est énormément développé, surtout à San Francisco, d'accord? Il y avait beaucoup, beaucoup de gars de cuir à San Francisco dans les années 75-80. Malheureusement, entre 1979 et 85, il y a eu ce qu'on appelle la grosse crise du sida, qui malheureusement a affecté plus de 60 % de la communauté de cuir au Québec. Autrement dit, qu'il y a eu 60 % de cuir qui sont morts durant la crise du sida dans les années 78, aller jusqu'à 80. Là, ça mourait là, comme je suis à tous les jours, il y en avait une centaine qui mouraient. Là. C'était là, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de sérum, il n'y avait rien. Les gens, les médecins ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a écœuré le plus, parce qu'à cette époque-là, j'avais 18-19 ans, c'est la stigmatisation qu'on a fait des gens décidéens. On les a méprisés.
On va rester au cuir parce qu'on va manquer de temps.
D'accord.
Je vais t'amener, pour beaucoup de personnes, on associe le cuir à une certaine sexualité. Est-ce que c'est vrai?
Oui,
puis non. Je parle du BDSM, là.
Oui, puis non. BDSM, là, on va mettre une chose au clair, d'accord? BDSM, mm-hmm. Ça, c'est des trucs qui ont été créés par les gars de cuir, d'accord? À une certaine époque, dans les années 70-75, OK? C'est Bandage Domination, ça, c'est ça. Ouais. C'est que aujourd'hui, en 2024, c'est plus la même forme de BDSM qu'on pratiquait il y a 20 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus sécuritaire, et puis surtout, c'est moderne.
Et ça se fait avec le consentement.
Ça va avec le consentement de la personne. Et ouais. puis, pour moi, comme moi, je fréquente de nombreux donjons, tels le Palace puis l'Orage, je peux vous dire qu'à cette heure, c'est très consensuel, et puis c'est plus comme avant.
Oui, parce que le temps presse. Est-ce que les gens qui s'habillent en cuir se promènent dans la rue en cuir? Comment on vit maintenant cette réalité-là en 2024?
Ça, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, M. Chabot. Ouais. C'est que moi, j'ai fait une étude pendant une semaine. Je me suis promené dans le village entre 19h et 21h, justement pour garder pendant une semaine. Je suis allé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour voir s'il y avait des gars de cuir qui se tenaient dans le village. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. D'accord. Ouais. Les gars de cuir étaient voués quand que le stud ou l'aigle noir fait des spéciaux comme les 5 à 7 des Phoenix ou quand que le stud organise un spécial cuir. Là, tu vas les voir. Mais en dehors de ça, t'as pas grand chance de voir des gars de cuir dans le village par les temps qui courent.
Rapidement, ça coûte cher, s'habiller en cuir?
Ah, il faut calculer. Écoutez, pour avoir des pantalons, un veston, puis la casquette, puis les bottes, il faut calculer 1 000 $.
Ouf, c'est pas à la portée de tous. Là.
Non, c'est pas à la portée de tout le monde, en effet. Mais il faut vraiment que tu aimes ça. Et puis, moi, j'aime ça. Je m'habille en cuir pour aller au gym. Je m'habille en cuir pour aller à la banque.
Pour venir en entrevue à la radio.
À la radio, puis ça. Et puis, d'ailleurs, vous regarderez mon vidéo. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je fais ça sur YouTube. Et puis, tout ça. Et puis, non, j'aime le cuir. Qu'est-ce que je te dis? J'aime le cuir.
C'est une passion.
Ah, c'est vraiment une passion, monsieur, qui dépasse la raison parfois.
Ah, qui dépasse la raison du portefeuille. Mais on va devoir arrêter ça ici, Alain Lacasse. Alain Lacasse, un vrai de vrai, vous l'avez entendu, un vrai de vrai passionné du cuir. Puis c'est vrai qu'à cette émission ici, on parle de tout. Le cuir, c'est une communauté importante dans nos communautés.
Bien, je vous remercie de m'avoir reçu. Puis n'importe quel temps, vous voulez avoir des détails, n'importe quoi, une entrevue, ça va me faire plaisir de vous...
On peut le trouver sur YouTube et sur Facebook.
On trouve sur YouTube ou sur Facebook, bien sûr. Puis de toute façon, vous avez mes coordonnées.
Merci beaucoup.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis_Martin_Chabot.
En deuxième partie, la sexualité des anges, ben non, on va parler de la sexualité des Français au segment Transatlant Queer. Et puis Judy Garland, Dorothée et les icônes queer à la chronique Queer Côté Geek avec Philippe Aubert-Côté.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
En deuxième partie, quel a été le rôle qu'a joué Judy Garland dans les émeutes de Stonewall? Mais avant, on va parler non pas de la sexualité des anges, mais la sexualité des Français. Moins souvent, mais plus, comment dire, plus queer, mais parfois, malheureusement, trop violent.
Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Allô, Christophe Gérard.
Bonjour, Denis Martin.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, on va parler de la sexualité des Français, parce que la sexualité des anges... Bien, toi, t'es mon ange préféré. Alors...
J'étais en train de me dire, tu considères les Français comme n'étant pas des anges.
Ben, écoute, il n'y a pas beaucoup d'anges partout sur la planète. Allons-y. Allons-y. Alors, on parle de la sexualité des Français.
Oui, tout à fait. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, vient de publier les résultats de sa 4e enquête sur le comportement sexuel des Français depuis 1970. La précédente étude date de 2006, ce qui fait que ça fait presque 20 ans. Et ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont évolué sur ce laps de temps, ce qui est d'un point de vue sociétal assez intéressant.
Alors, qu'est-ce qui a changé en 20 ans?
Alors, ben, si on doit résumer, c'est un peu ce que tu disais en accroche. Les pratiques sont plus variées, les rapports moins fréquents et le niveau de violence reste assez élevé, ce qui est pour le coup assez inquiétant.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus, là?
Alors, le premier constat réside dans l'âge du premier rapport sexuel, hein, puisque l'enquête montre que l'âge médian de ce premier rapport est de 18 ans 2 pour les femmes, hein, 17 ans, un peu plus de 17 ans pour les hommes. En 2023, c'était 17,3 ans sur la précédente étude, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc, on fait l'amour beaucoup plus tard pour la première fois.
Oui, je continue.
Oui. Alors en fait, l'autre point d'augmentation, c'est le nombre moyen de partenaires des femmes qui ont entre 18 et 69 ans, qui est passé de 3,4 en moyenne au cours de la vie en 92 à 7,9 en 2023. Pour ce qui est des hommes, ils déclaraient autour de 11 partenaires entre 92 et 2006. En 2023, le nombre est de 16, pardon, partenaires, donc
Ben,
un
ouais.
beaucoup plus élevé.
C'est à se demander qui a fait augmenter le nombre de partenaires. Cela dit, bon, OK, je fais des blagues, mais ça fait du bien parce que c'est pas tout à fait toujours drôle. Alors, c'est pas le seul changement?
Non, on remarque en fait que le répertoire des pratiques s'est diversifié. Elles sont moins hétéronormées. Alors, ce que j'entends par hétéronormé, ce sont des rapports vaginaux. De plus en plus d'hommes et de femmes déclarent avoir expérimenté d'autres pratiques que les rapports vaginaux, justement. On parle de masturbation, de sexe oral et de rapports anaux. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux rapports anaux, on constate que 23,4% des femmes en 92, en 2023, on est à 3 38,9%. L'augmentation est encore plus forte pour les hommes, hein, puisqu'on est passé de 29,6% à 57,4%.
Plus de la moitié.
Bon,
Bon, ça,
tout
c'est pas tous des hommes gays quand même. Alors,
Non.
quelles sont les modifications par rapport... Je suis désolé, mais c'est parce que quand je lis ça, je lisais ça, j'ai cette réaction-là à chaque fois. Quelles sont les modifications là, par rapport à nos communautés, justement?
Il y a du positif, hein, et c'est d'ailleurs assez enfin, il y a un contraste par rapport au nombre d'actes LGBT-phobes qu'on constate ici en France, hein, qui sont répertoriés chaque année. Ce qu'on constate, c'est que l'acceptation sociale de l'homosexualité est en hausse. En 2023, c'est 69,6% des femmes et 56,2% des hommes de plus de 18 ans qui considèrent l'homosexualité comme une sexualité comme les autres. Par contre, il y a encore du travail à faire, hein, pour changer les mentalités sur les questions de genre. En effet, les opinions sur la transidentité sont nettement moins favorables. C'est 41,9% des femmes et 31,6% des femmes qui estiment qu'il s'agit d'une identité comme une autre. Autre phénomène notoire, hein, en ce qui concerne nos communautés, c'est que le nombre de personnes qui s'engagent dans une sexualité non exclusivement hétérosexuelle augmente très nettement. Pour la première fois, il y a plus de femmes, hein, qui évoquent des expériences avec des personnes de même sexe et on constate qu'il y a 13,4% de femmes et 7,6% d'hommes âgés de 18 à 89 ans qui ont déclaré avoir été attirés au moins une fois par des personnes de même sexe au cours de leur vie.
Je vais juste faire une parenthèse ici. Je vais répéter qu'il y a 57,4% des hommes qui ont pratiqué le sexe anal et il y en a 7,6 qui se disent avoir été attirés par des personnes du même sexe. Bon, je laisse ça là.
Ouais.
Et à quel qu'est-ce qu'on peut dire de la satisfaction sexuelle?
Là aussi, hein, ça augmente, elle s'améliore. Hein. La proportion de personnes qui se déclarent satisfaites de leur vie sexuelle actuelle s'établit à 45,3% des femmes contre 43,6% en 2006 et 39% des hommes qui disent eux aussi être satisfaits sexuellement. C'était 35,1% en 2006. Et de manière générale, bah, la satisfaction sexuelle est plus élevée aujourd'hui et à tous les âges qu'elle ne l'était en 2006 pour les deux sexes. Il y a deux exceptions cependant pour les femmes entre 30 et 39 ans et pour les hommes de plus de 60 ans.
Et qu'est-ce qu'on peut dire là sur la sexualité qui diminue avec l'âge?
Bah, ça diminue pas vraiment parce qu'en 2023, c'est 56,6% des femmes et 73,8% des hommes qui restent actifs sexuellement après 50 ans. Et le chiffre est encore plus élevé pour les personnes qui sont en couple, hein, puisqu'on passe à 77,2% des femmes et 84,9% des hommes qui ont eu une activité sexuelle dans les 12 derniers mois. Il y a un autre point d'évolution, c'est une diminution de l'activité sexuelle. L'an dernier, c'est 77,2% des femmes et 81 81,6% des hommes qui déclaraient avoir une activité sexuelle avec des partenaires dans les 12 derniers mois. Les chiffres étaient respectivement de 82,9% et 89,1% en 2006.
Wow, OK. Et qu'est-ce qu'on peut dire là? Parce qu'on a mentionné la violence.
Tout à fait. Hein. Moi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une mobilisation sociale assez forte contre les formes de violence sexuelle, hein, qui a modifié un peu les cadres normatifs du consentement. Par contre, l'ampleur des violences demeure inquiétante, notamment chez les plus jeunes. C'est 36,8% des femmes âgées de 18 à 29 ans et 12,4% des hommes dans la même tranche d'âge qui ont déclaré avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie. C'était 16,5% des femmes et 4,7% des hommes en 2006. Et ces violences, elles sont souvent survenues alors que les personnes concernées étaient mineures au moment des faits. Alors, les déclarations de violences sexuelles, donc rapport forcé ou tentative de rapport forcé, sont très élevées parmi les personnes qui déclarent des partenaires de même sexe. C'est 53,1% des femmes et 29,5% des hommes. C'est encore plus élevé hein, pour les personnes transgenres. En tout cas, les personnes transgenres déclarent plus de violences sexuelles que les personnes cis. On est à 43,1% des personnes trans qui ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie.
Et parallèlement à cette étude, il semble que la mise en place d'un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école ne soit pas chose facile en France. Ça ne l'est pas au Québec non plus, je dois dire.
Ah, que non. Et à chaque fois que le sujet revient sur le tapis, hein, on note une levée de boucliers de la part de l'extrême droite et de tous les conservateurs qui estiment que cela n'a pas sa place à l'école. L'éducation sexuelle, encore une fois, et comme beaucoup de sujets pour ces gens-là, c'est woke.
Ah, donc, c'est un mot à bannir à cette émission. Mais en tout cas, c'est pourtant plus qu'un projet, là, c'est une loi qui impose ce programme dans la scolarité des jeunes Français.
Oui, et c'est pas récent, hein, puisque c'est l'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l'éducation depuis 2001. Elle est rendue obligatoire aux trois niveaux de scolarité, donc l'école pour les plus jeunes, le collège et le lycée pour les adolescents, à raison d'au moins trois séances annuelles, adaptées bien évidemment à chaque âge et à chaque niveau d'enseignement. Elle est complétée par une circulaire du 12 septembre 2018, qui définit une liste précise des thématiques qui pourront être abordées à l'école élémentaire.
Mais cette loi, est-ce qu'elle est appliquée?
Pas du tout. Hein. Il est bien là le problème. Mais en même temps, c'est quand on est enseignant, il faudrait être bien téméraire pour se lancer dans une telle éducation. D'abord parce qu'il n'y a pas véritablement d'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et il n'y a pas réellement de programme. En tout cas, il n'y avait pas réellement de programme jusqu'à présent. En plus de ça, il faut compter sur la prise de position des associations proches de la Manif pour tous, de l'extrême droite, comme le Parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais également de la droite conservatrice, les Républicains notamment.
Mais ça, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène.
Oui.
Et je ne parle pas de la rivière. Là.
Tout à fait. C'est revenu récemment, hein, puisqu'il y a quelques semaines, la ministre de l'Éducation nationale, démissionnaire, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement Barnier a donné sa démission et qu'un nouveau gouvernement est en cours de constitution. Donc, elle s'appelle Anne Genté, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, et elle a annoncé que le programme de cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est très important de le signaler, serait dévoilé au cours du mois de décembre. Hein. Il n'en fallait pas moins hein, pour que des personnalités refassent surface. C'est le cas notamment de Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, qui est aujourd'hui à la tête d'un syndicat de la famille et qui dénonce à nouveau le contenu du programme avant même qu'il ne soit diffusé, avec un gros fantasme qui refait surface, la théorie du genre. Alors, selon la droite conservatrice, le programme inciterait les enfants dès leur plus jeune âge à changer de sexe. Par ailleurs, ces derniers seraient confrontés à un enseignement des pratiques sexuelles en des termes crus et pour le moins explicites. Alors, selon les opposants au programme de l'éducation sexuelle, ce n'est pas du ressort de l'école. Hein. Pour eux, c'est celui de la famille. Alors, on peut s'interroger hein, sur le bien fondé de cette analyse quand on voit leur ouverture d'esprit en ce qui concerne l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, pardon.
Ouais, ben voilà des prises de position. Je suis certain que ces prises de position trouvent écho dans certains médias. Hein?
Ouais, et c'est ça. Pour moi, c'est vraiment très inquiétant, hein, puisque, comme tu le disais, il y a certains médias qui n'hésitent pas à diffuser des fake news. C'est le cas notamment de la chaîne Tout Info CNews et d'un de ses journalistes plus particulièrement qui s'appelle Pascal Praud. Alors, Pour l'anecdote, la chaîne compte parmi ses chroniqueurs un de tes compatriotes, hein, Mathieu Bock-Côté. D'ailleurs, si vous pouviez le récupérer, parce que franchement, si on avait dû choisir une référence québécoise, c'est pas celle-là qu'on aurait prise.
Non, non, le billet doit un aller simple. Alors, il reste chez vous.
Merci pour ce cadeau empoisonné. Pour en revenir à Pascal Praud, hein, il a dévoilé dans son émission qui s'appelle L'heure des pros un soi-disant contenu de programme constaté par huissier, et c'est ça qui est dingue, constaté par huissier, un programme qu'il cite avec un langage cru à 20h, qui est une heure de grande écoute chez nous, un programme qui, selon lui, serait présenté sur un site qui s'appelle onsexprime.fr.
Bon, est-ce vraiment le sommaire là, du programme?
Non, et loin de là. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut parler de désinformation. Alors, pour être honnête, le site onsexprime.fr existe bien et c'est bien un site gouvernemental hein, puisqu'il a été développé par Santé publique France. Mais son objectif, c'est juste de répondre aux questions hein, que se posent les adolescents sur la sexualité, mais également d'autres sujets comme la transidentité, le genre, la notion de consentement. Mais le contenu du site n'a strictement rien à voir avec le programme qui est mis en place à l'école.
Et les politiciens, eux autres, ne sont pas en restant.
Eh non, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Récemment, lors d'une séance de questions au gouvernement, un sénateur a interrogé le ministre délégué à la réussite scolaire, qui s'appelle Alexandre Portier, sur le sujet et sur la théorie de genre, soi-disant présente dans le programme. Alors, ce dernier a répondu qu'en tant que ministre et père de famille, il s'opposerait toujours à la présence de la théorie de genre dans les programmes scolaires, ainsi qu'à l'intervention de certaines associations qui, selon lui, développent ces théories dans les établissements. Ça lui a valu un recadrage de la part de sa ministre de tutelle, Anne Genté, qui a insisté sur le fait que la théorie de genre n'existait pas.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce programme vraiment?
Bah, rien de ce que dénoncent les détracteurs. Hein. D'abord, ce programme, il a pour but de donner un cadre aux enseignants et il s'adapte précisément à l'âge du public visé. À l'école maternelle et au primaire, on évoque l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et si le genre est évoqué, c'est pour parler de respect et du fait que, par exemple, contrairement à ce que l'on entend parfois, une fille peut jouer avec des jeux de garçons et vice-versa, et qu'une fille peut également vouloir faire un métier soi-disant réservé à la gent masculine. La notion de consentement est-elle aussi présente dans le programme, de façon à ce que les plus jeunes puissent prendre conscience que leur corps leur appartient et qu'ils peuvent s'opposer à des gestes qui les dérangent. C'est une façon hein, de lutter contre les agressions pédophiles. L'éducation sexuelle, elle va s'adresser plus aux adolescents, donc au collège et au lycée. Une façon de remettre la sexualité dans un contexte plus sain et respectueux, quand on sait que les jeunes et les adolescents sont de plus en plus confrontés assez jeunes à la pornographie et ça a tendance à biaiser un peu leur rapport à l'autre.
Et ce programme, est-ce qu'il va voir le jour?
Bah, on peut l'espérer, mais très franchement, c'est loin d'être évident hein, dans le contexte d'instabilité politique de la France actuellement. Est-ce que le prochain gouvernement prendra le risque de rentrer en conflit avec une partie de l'électorat et des parlementaires? Rien n'est moins sûr.
Il nous reste 4 minutes. Peux-tu nous parler il y a 2 livres qui ont suscité ton attention. Je te laisse y aller là-dessus.
Ouais, alors le premier livre, en fait, bon, on est à la période de Noël, je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler d'idées cadeaux ou de lecture même, hein. Le premier livre s'appelle Bruno et Jean. C'est un livre de Pauline Valade, qui est historienne. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de visiter Paris, ont eu l'occasion de se balader dans la rue Montorgueil, qui se situe dans le quartier idéal, au centre historique de la capitale. Il y a une plaque commémorative qui est posée à même le sol et qui évoque le destin tragique de Bruno Lenoir et Jean Diou, qui ont été arrêtés le 4 janvier 1750, condamnés pour homosexualité et brûlés en place de Grève, donc l'actuel parvis de l'Hôtel de Ville, le 6 juillet 1750. C'était la dernière exécution pour homosexualité en France. Donc, on ne sait pas grand-chose de ces deux hommes, hein, puisque tout ce qui reste, c'est les interrogatoires, les minutes d'un procès expéditif et beaucoup de zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, l'historienne savait qu'elle n'allait pas pouvoir les combler par des faits historiques. Elle a donc décidé d'écrire un roman pour raconter leur histoire, leur attirance mutuelle, leur histoire d'amour. C'est vraiment un très très beau livre. Qui m'a beaucoup plu. On parle du Paris de la moitié du XVIIIe siècle, et si je vais faire un parallèle, ça m'a fait penser un peu à une histoire un peu à la Notre-Dame, version gay. Donc c'est vraiment un très beau livre si on aime les destins tragiques.
Et autre époque, autre ambiance avec un autre livre.
Ouais, alors c'est un roman graphique qui est signé Louis Feglou et Marie-Lou Lesage aux éditions Le Duc Graphique. C'est un livre qui s'appelle donc Petite fille deviendra grand, et comme son nom l'indique, on va parler d'identité de genre. Donc en fait, c'est l'histoire de Louis Feglou, le scénariste de la bande dessinée, qui est un jeune homme en médecine qui va se plonger dans son passé pour raconter son parcours d'homme trans, un homme trans qui est très présent sur les réseaux sociaux sous le pseudo Loulou parfois. Et donc il évoque son enfance auprès de sa mère, hein, qui l'a élevé seule, des questions qu'il va se poser, notamment quand il demande à sa mère pourquoi son zizi ne pousse pas comme celui des autres garçons. À l'adolescence, il va se constater une attirance pour les filles, ce qui va lui faire faire un coming out lesbien, avant de prendre conscience de sa transidentité en regardant un documentaire sur le sujet. Alors c'est un livre qui est vraiment très très bien fait à plusieurs niveaux. Je pense que il parlera à tous les jeunes trans qui se cherchent et qui trouveront sans doute des réponses à leurs questions, un modèle et surtout la certitude, et ça c'est important, qu'une vie heureuse et épanouie est possible quand on est trans. C'est un livre aussi qui peut donner aux parents des clés pour accompagner leurs enfants trans au mieux. Et puis c'est un livre qui peut également intéresser les personnes qui sont conscients des difficultés, des questions de genre et des transidentités à une époque, hein, comme on le sait, où
c'est difficile.
Nos amis trans sont particulièrement stigmatisés.
On doit s'arrêter là-dessus, Christophe Gérard à Paris. Ouais. Merci beaucoup et passe de joyeuses fêtes. On se retrouve en 2025.
Merci et à l'année prochaine.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Oups, il y a un petit problème.
Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Salut Philippe Aubert.
Ben quoi, c'est rare qu'on me voit danser.
Ah, ça fait du bien de terminer l'émission là, parce que les nouvelles sont toujours très bonnes. À Noël, on écoute donc Le Magicien d'Oz.
Oui, oui, chaque année, c'est un classique du temps des fêtes. Je sors mes souliers de rubis, puis je me rends au IGA en me déplaçant comme la sorcière de l'Ouest, là, en apparaissant puis en disparaissant dans
la
un grand...
La prochaine fois, je veux une photo sur les réseaux sociaux.
Ah oui, il aime pas trop ça quand je fonce au IGA, là, parce que ça fait de la fumée, mais bon, ça a de la gueule quand même. Là. J'aimerais voir Barbada ou Meadow Lamotte faire ça sur scène, arriver comme la sorcière de l'Ouest, là, avec du feu, là, ça serait quelque chose. Un grand classique que j'adore.
Ouais. Donc, on écoute des films pendant le temps des fêtes, celui-ci en particulier.
Oui, celui-ci en particulier. Grand classique de Noël pour moi puis ma génération. On avait une série animée quand on était jeune qui nous a marqués. Mon chum aime ça aussi, la regarder sur YouTube. Là. Mais c'est un film que je trouve fascinant. Ça a marqué mon enfance et qui entretient une relation vraiment particulière avec la communauté gay aussi et la communauté LGBTQ+, en général. Ah. Aussi. Et assez fascinant parce que, oui, à cause de l'actrice Judy Garland, qui interprétait le personnage de Dorothée dans Le Magicien d'Oz, elle a des liens avec la communauté qui sont assez avérés. À une époque même, c'était un code entre personnes gays de dire « Ah, pour dire que je suis gay, sans qu'on le comprenne, on disait « Je suis un ami de Dorothée. »
On disait ça. Je me rappelais de ça, oui.
C'est une drôle de convention. Les Anglais disaient, eux, « Ah ben, je suis un ami de Madame Leroy, tu sais. » En anglais, là, je ne sortirais pas mon accent british pour le dire, mais on disait, on employait Dorothée ici et ailleurs. Et pourquoi cette association-là, c'est mystérieux? Est-ce que c'est à cause du pays d'Oz qui présentait comme une sorte de communauté idéale où la communauté queer aurait pu se réfugier? Est-ce que c'est parce que Judy Garland a eu aussi beaucoup de personnes gays dans son entourage? On ne sait pas trop. Puis il y en a qui se demandent même, est-ce qu'il y a un lien entre notre drapeau, le drapeau arc-en-ciel, et Le Magicien d'Oz aussi?
Ben, la Yellow Brick Road, là.
Hein? Yellow Brick Road.
Donc, le jaune sur... Oui.
Exact. Puis la chanson « Somewhere over the rainbow », tu sais, quelque part au-delà de l'arc-en-ciel.
Ben, oui.
Tu sais. Certains se demandent s'il n'y a pas un lien, parce que Gilbert Baker, qui a conçu le drapeau de la fierté, à la demande d'Harvey Milk, d'ailleurs, est un grand fan de Judy Garland.
Ah.
Tu sais, mais on ne sait pas si c'est ça, s'il y a un lien, mais c'est dans les esprits.
Est-ce qu'on parle d'un rôle de Judy Garland dans L'émeute de Stonewall?
Oui, ça, c'est l'association la plus mystérieuse qu'il y a entre le personnage de Dorothée et la communauté queer. C'est une légende qui est assez tenace.
Ah oui?
Et Comme quoi que les émeutes de Stonewall, qui est un événement fondateur dans notre histoire, sera en partie causée par Judy Garland.
Comment ça peut arriver, ça?
Comment ça peut arriver? Il faut se remettre dans le contexte. Hein? Les émeutes de Stonewall, ça a survenu dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. Pour situer les gens, là, quelques semaines après, on marchait sur la Lune pour la première fois.
Okay.
C'est quand même loin, tu sais. C'est arrivé à la fin des années 60, une époque qui était marquée par les luttes pour les droits civils. Il y a Martin Luther King qui venait juste de se faire assassiner, Robert F. Kennedy aussi. Mai 1968, il y avait des grosses manifestations en France. C'était l'Expo 67 ici. T'sais. Il y avait beaucoup de changements sociaux, beaucoup de mouvements où on s'affranchissait. T'sais, les minorités, tout ça, bon, s'affirmait. Il y avait des mouvements pour les droits LGBTQ+, mais on disait qu'ils étaient trop gentils. Hein, il essayait d'aller de façon diplomatique, tout ça, tu sais. Stonewall a marqué un tournant là-dedans. C'est une émeute qui est arrivée la nuit du 27 au 28 juin 1969 au Stonewall Inn à New York, donc qui était un bar gay-friendly, qui avait des descentes de police très fréquentes, là, puis on fichait les gens. Si vous étiez habillés comme des femmes, mon Dieu, vous aviez un mauvais dossier, tout ça, bon. La police a débarqué cette nuit-là et... À 1h du matin, mais là, les gens ont décidé que non, les drag queens, les lesbiennes, les gays, tout ça, ont dit qu'ils ne se laissaient pas embarquer de même. Ils sont restés sur place puis ont protesté. Ouais.
Et, puis je rappelle que c'était des femmes trans racisées qui ont mené cette émeute-là.
Oui, dans certaines reconstitutions, même, c'est même elles qui auraient parti le bal, tu sais. Qui aurait parti le bal? Qu'est-ce qui a parti le bal à Stonewall? Certains pensent que c'est Judy Garland parce que.
Ben, t'es pas morte, là?
Elle est morte le 22 juin 1969, quelques jours avant.
Ah!
À Londres. Et ses funérailles ont lieu à New York le 27 juin 1969, quelques heures avant les émeutes de Stonewall.
Ah.
Et là, la légende veut que certaines personnes qui étaient présentes au Stonewall Inn voulaient faire une veillée commémorative pour Judy Garland. Et ils étaient très émus, tout ça. Puis là, quand la police a débarqué, ça a été « not today, Satan ». Pas aujourd'hui, la police, là. Foutez-nous la paix. Et c'est pour ça que ça aurait dégénéré.
Ah! Alors, cette version est contestée.
Contesté.
Mythe ou réalité, donc?
Mythe ou réalité. D'où ça vient, cette histoire-là? Je me suis mis dans mes notes. Excusez-moi.
On est rendu au thème numéro 4.
Le numéro 4. Voilà.
C'est correct, j'avais ça arrive,
viré,
ce genre de truc.
J'avais viré mes feuilles à l'envers. Ouais. Donc, il y a plusieurs sources à ce mythe-là. Il y a un écrivain du nom d'Edmund White, en 1988, qui mentionne ce scénario-là dans un roman qui s'appelle « La tendresse sur la peau ». Et il y a un historien de Stonewall, en 1993, Martin Dobermann, qui a recueilli des témoignages de gens qui disaient qu'eux, ils avaient été très émus par les funérailles de Judy Garland quelques heures avant, puis ils n'étaient pas d'humeur à se faire déranger par la police. Il était moins que d'habitude, disons.
Ouais.
Puis en plus, il y avait d'autres préoccupations sociales, tu sais. Donc, les gens étaient à cran. Mais certains contestent ce narratif-là parce qu'il y a David Carter, un autre historien de Stonewall, qui en 2004, lui, a fait des recherches puis il a trouvé que la seule source contemporaine qui mentionnait un lien entre Judy Garland et les émeutes venait d'une source hétérosexuelle en 69, qui avait employé ça pour ridiculiser les émeutes de Stonewall, de dire « bon, les gays sont révoltés juste parce qu'on a attaqué une vedette has-been dont il était trop entiché, tu sais. » Il y a aussi des vétérans de Stonewall qui ont critiqué le film qui a été fait en 2015 sur cette émeute-là, et un film qui avançait ce scénario-là pour dire « non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Donc, c'est controversé, mais quand on commence à fouiller, c'est dur d'invalider ce narratif-là. Parce qu'il y a d'autres vétérans qui ont rapporté qu'il n'y avait peut-être pas de veillée commémorative pour Judy Garland au Stonewall Inn ce jour-là, mais ils avaient été très émus, très ébranlés par les funérailles quelques heures auparavant. Il y en a qui ne voulaient pas sortir en ville, puis ont décidé d'aller sortir en ville juste pour se changer les idées, puis ils n'étaient pas d'humeur. Mm. Donc, c'est peut-être un élément de plus qui a fait que les gens, certaines personnes, en tout cas, étaient plus à cran, puis quand la police a débarqué, là, ils ont décidé qu'ils allaient riposter.
En conclusion,
mythe ou réalité, c'est possible. On ne sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est un petit peu comme le naufrage du Titanic. Hein? Mais quand on avait les survivants du Titanic, on ne savait pas si le bateau s'était cassé en deux ou pas. On ne savait pas ce qui s'était passé.
Ou si Leonardo DiCaprio était sur la bord du vélo.
Puis est-ce qu'il aurait pu être sauvé par Kate Winslet? On ne savait pas. Donc, c'est un scénario qui est très probable, qui est très beau. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rappelle quand même qu'entre notre communauté et certaines grandes œuvres littéraires, artistiques, il y a des liens très puissants.
Mm-hmm.
Et c'est un bel appel, un beau rappel de ce que la solidarité peut faire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là au Stonewall Inn? C'est que les gays, les lesbiennes, les trans, les personnes racisées, tout le monde s'est uni contre la police.
Oui. Oui.
On peut faire ça. Excusez-moi, j'ai cogné sur la table.
C'est correct. Oui, continuons donc. On peut donc parler de la même chose pour Stonewall, là. Oui. Et on a beaucoup oublié Marsha P. Johnson. Alors ça aussi, c'est un... le récit a besoin d'être fait, je pense. Hein?
Mais d'être fait, parce que certains racontent que c'est elle qui avait démarré l'émeute. Est-ce que c'est en insultant les policiers, en lançant un verre? On ne sait pas trop. Elle-même a dit qu'elle était arrivée après le début de l'émeute. Mm. Donc, c'est une nuit qui est encore pleine de mystères encore aujourd'hui.
Ah oui.
Vraiment
oui,
fascinant.
Oui. Bon, ben, on va écouter... Oui. Le magicien d'Oz pour les fêtes. Puis on va penser avec tout un autre œil. Merci beaucoup, Philippe Aubert-Côté.
Merci beaucoup, Denis Martin.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur. Et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union, Chabot.
Et nous, ben, on va se revoir, on va se reparler la semaine prochaine, 23 décembre, émission qui a été enregistrée, à laquelle va participer Philippe Aubert-Côté. On va recevoir l'auteur Patrick Sénécal. On va parler justement qui peut écrire des histoires avec des personnages queer. Alors, ça sera la semaine prochaine, 23 décembre. Et on va prendre une petite pause. Il n'y aura pas d'émission le 30 décembre. On va revenir le 6 janvier avec notre revue de l'année et les prospectives pour 2025. Je remercie l'équipe, donc Godric Trobe et Marie Massé à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie Gerlire Mellette, chef de contenu, Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore de l'équipe. Et je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite de passer de très, très joyeuses fêtes à 2025.